ça l'a passé 7 ans à préparer sa réélection. Ça, les Sénégalais ne sont pas trompés sur ça. Pendant que l'opposition parlait sur les radios et sur Internet, lui, il construisait ses routes, faisait ses ponts et inaugurait un nouvel aéroport. Donc, il a fait des réalisations concrètes que beaucoup de Sénégalais ont vues.
Mais son bilan est satisfaisant ?
Je pense, ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les Sénégalais qui ont voté qui l'ont dit aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il a tenu ses promesses ?
Je pense que sa grande promesse, c'est de faire du Sénégal un pays émergent. Et on attend de voir. C'est pas seulement parce qu'on a un train électrique entre Dakar et Diamniadio. C'est pas ça qui fait qu'un pays sera émergent. Et aussi, l'autre phénomène, c'est que la star montante qui s'appelle Sonko, il est très populaire chez les jeunes. Donc, je crois qu'il y a encore du travail à faire en direction des jeunes Sénégalais qui, pour l'essentiel, n'ont pas de travail. Donc, ça, ce sera un autre défi de son second mandat. Donc, le travail n'est pas fini, quoi.
Alassane Samba Diop, peut-être un mot sur ce succès de Macky Sall. Comment l'expliquer ?
Mais comme l'a dit Idi Fall, le succès de Macky Sall, il a construit dès le premier jour où il a prêté serment en tant que président en 2012. Vous savez, au Sénégal, nous sommes dans une campagne électorale permanente. Le président a déjà pensé à son deuxième mandat dès qu'il a été élu pour le premier mandat. On a vu qu'à plusieurs reprises, il a tenu de ce qu'il appelle des conseils de ministères décentralisés. C'est une façon de faire une campagne, sans le dire, hein, parce qu'il est passé dans les régions, ils ont promis des financements dans les régions pour partout. Il a mis aussi des programmes sociaux qui s'appellent le PUDC, la couverture universelle maladie, les bourses familiales. Il y a aussi le désengagement de certaines régions au Sénégal qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont vu du concret par rapport à cela. Comme il l'a dit si bien, il dit, la plupart des opposants sénégalais pensaient que l'opposition se mène sur les radios et dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait le terrain. Et le président, en 7 ans, peut-être dans la présidence du Sénégal, il a fait 2 ou 3 fois encore le tour du Sénégal. Donc, ce qui lui a permis de mettre en place les résultats. Mais là où il a échoué, le président de la République de Macky Sall, c'est effectivement l'emploi des jeunes. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko est monté en puissance, a pu séduire une frange de la jeunesse, c'est parce que de plus en plus dans nos pays, on a une jeunesse défiante. On a une jeunesse aujourd'hui qui estime que les ressources du pays doivent revenir au Sénégal. Nous avons une croissance, un taux de croissance de 6%, mais ce n'est pas une croissance inclusive. C'est-à-dire que la pauvreté est encore très grande au Sénégal. Les régions, si vous venez à Dakar aujourd'hui, vous croisez beaucoup de jeunes qui ont quitté les régions, qui viennent conduire des charrettes dans les rues de Dakar. C'est parce que dans les régions, les terroirs, il n'y a pas d'investissement qui sont faits là-bas. Et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, que le deuxième mandat du président Macky Sall, il aura à cœur pour investir dans les terroirs, de localiser des usines là-bas pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Parce que s'il ne le fait pas, Ousmane Sonko est aujourd'hui à une grande capacité de mobilisation de ces jeunes qui sont fâchés et qui ne sont pas contents parce que l'emploi encore reste un gros défi pour la jeunesse sénégalaise.
Alors voyons maintenant ce qu'en pensent nos Facebookers. On a Louis Moutanga à Kamina en RDC. La stratégie de l'opposition de se battre tous contre un a favorisé les présidents sortants. Au Nigeria, 1 contre 69 et au Sénégal, 1 contre 4. Comment peut-on remporter sans une candidature unique de l'opposition ? Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa en RDC. Au Sénégal, les élections ont été verrouillées par le système de parrainage, donnant l'avantage à Macky Sall. Il y a aussi des critiques concernant la disqualification de Khalifa Sall, maire de Dakar, et Karim Ouad à cause de leur taille politique et non pour corruption. Alors, peut-être Idriss Fall pour réagir au premier commentaire. Hein.
Moi, je vais réagir à notre ami Alphonse Mbouaki.
D'accord.
En fait, le Sénégal, rien n'est verrouillé. Je crois que Khalifa Sall a fait des erreurs et il en a payé le prix. Quand on veut aller vers la magistrature suprême, on ne doit pas pouvoir vous attraper avec des malversations. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas fait de malversations. Donc, ça c'est clair. Il a dit que je ne suis pas le seul à le faire, ce qui n'est pas un argument. Et Khalifa Sall n'était que maire de Dakar. Il est très populaire à Dakar. Il ne suffit pas de gagner Dakar pour gagner l'ensemble des régions du Sénégal. Khalifa Sall est presque un dissident du Parti socialiste que dirige Ousmane Tanordien, qui est resté en coalition avec le président Macky Sall. Quant à Karim Ouad, j'ai entendu beaucoup de journalistes dire que c'est un leader sénégalais. Karim Ouad n'a jamais gagné une seule élection au Sénégal. Karim Ouad est connu parce que c'est le fils de son père. et qu'en 2009, lorsqu'il a été battu dans les élections locales chez lui, dans son propre quartier du Point E, son père Abdoulaye Wade, qui était président fâché, en a fait le ministre de la Terre, du Ciel et de la Mer. Mais Karim Wade, vraiment au plan de son poids politique, je pense qu'on ne l'a jamais vu, sauf que c'est le fils du président. Il pouvait peut-être hériter du PDS, et même ça, ça n'a pas eu lieu, parce que c'est ça qui explique la candidature de Madi Kenyan. Donc, je crois que c'était pas joué d'avance, hein, une opposition divisée. C'est le fait que Khalifa Sall n'ait pas pu se présenter a favorisé Idrissa Seck. Idrissa Seck qui se présente pour la troisième fois. Et voilà, et Sonko a joué sur le mécontentement des jeunes. Mais je pense que ce n'est pas assez pour gagner une élection. Les élections n'étaient pas verrouillées. Quand on veut conquérir la magistrature suprême d'un pays, il faut s'arranger pour qu'on ne puisse pas parfois vous trouver des choses à vous reprocher.
Alors, voilà hein, pour la réponse à Alphonse Mbouaki. Seydina Abagay, le taux de participation a été élevé, plus de 66%. Comment expliquer cette mobilisation?
Je pense que ce qui l'explique, c'est ce qu'Alassane a dit en chutant, c'est-à-dire la forte défiance des jeunes vis-à-vis du pouvoir en place, vis-à-vis de l'autorité, parce qu'il y a un taux de chômage qui est assez fort quand même. Et il y a autre chose aussi, c'est que ces jeunes-là sont très nombreux dans la population. Pratiquement la majorité de la population sénégalaise est jeune. En 2012, ceux qui n'avaient pas voté, en 7 ans, ils ont eu la majorité, ils ont voté, ils ont été séduits par le discours d'Ousmane Sonko, pour la plupart, parce que les observateurs jugent que si Ousmane Sonko a pu, dès sa première élection, mobiliser 15% de l'électorat, c'est parce que les jeunes sont avec lui. D'abord, il y a ces jeunes-là. Ensuite, comme Alassane l'a dit aussi, il y a des programmes que le président a mis en place dans les zones rurales. Et ces populations rurales-là qui ont bénéficié de ces programmes ont voté massivement pour le président et les scores qu'il a obtenus dans les zones rurales l'ont montré. Et dernière chose aussi, peut-être qu'il y a cette opposition-là qui s'est réunie aussi, qui a pu mobiliser une certaine frange, bien que minoritaire, comme Idrissa Seck, qui a capitalisé peut-être dans l'électorat du PDS, même si le président, l'ancien président Abdoulaye Wade a demandé à ses militants de ne pas voter. Il a pu capitaliser certains militants du PDS, entre autres. Et ce qui fait que chacun de son côté a mobilisé la frange qui lui est favorable, plus la volonté des Sénégalais de choisir le président font que le taux de participation est assez élevé.
Alors le scrutin hein, s'est déroulé dans le calme, plus ou moins. Le Sénégal est souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Est-ce que ces élections confortent ce statut, Idriss Fall?
Je crois qu'on a l'habitude de voter au Sénégal. On ne le dit pas assez, les Sénégalais, ils votent depuis le 19e siècle. Et que le Sénégal a connu une très courte partie où c'était le parti unique. Mais sinon, depuis 1973, les partis sont là-bas. Et que pour revenir même à l'histoire du parrainage, c'est parce qu'on a tellement de partis politiques, près de 300, que c'était un peu pour quand même filtrer. Si on ne peut pas avoir 50 000 signatures, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut prétendre au suffrage des Sénégalais. Et que je pense que c'était bien d'avoir 5 candidats que d'en avoir 300 ou 47 comme au Nigeria. Donc je crois que c'était surtout ça et que la démocratie sénégalaise, en tout cas si c'est par le vote, elle est assez dynamique. C'est l'un des rares pays africains où deux présidents en exercice ont été renvoyés par les urnes. Et les gens qui organisent ces élections, on le répète pas assez, de la Direction générale des élections, ce sont des fonctionnaires de l'État sénégalais. Le Sénégal est l'un des rares pays où il n'y a pas de commission électorale nationale indépendante. Donc, et qu'on est arrivé quand même à renvoyer deux présidents par les urnes en 2000 et en 2012. Donc, je crois que c'est ça le dynamisme du Sénégal et que les Sénégalais que vous entendez, bon, ils sont assez actifs politiquement, quoi.
Alors, on va essayer de parler de la suite. Hein. Alassane Samba Diop, quels sont les enjeux pour ce prochain mandat?
Mais les enjeux sont clairs. Moi, je pense que le premier enjeu, d'abord, c'est la jeunesse sénégalaise. Il faudrait bien qu'avec les découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal, que le gouvernement qui va se mettre en place le nouveau régime ou la continuité du régime arrive à trouver avec ces ressources-là de l'emploi aux jeunes et surtout de faire un transfert de technologie pour que les jeunes puissent aujourd'hui trouver de l'emploi. La deuxième question fondamentale, c'est l'éducation aussi au niveau du Sénégal. Nous pensons qu'il faudrait que davantage que le système éducatif soit plus performant. Et l'autre chose fondamentale, ce sont les institutions, la réforme profonde des institutions sénégalaises. Aujourd'hui, le président de la République, normalement, doit ne plus être chef de parti. Nous pensons que beaucoup pensent aujourd'hui que le fait d'être chef de parti un peu domine un peu le fait de gérer les institutions. Et on a aussi une démocratie sénégalaise plutôt électoraliste. Nous avons une démocratie. Quand il y a des rendez-vous électoraux, ça se passe très bien, mais le fonctionnement des partis politiques et la gestion des pays, nous avons une démocratie sans démocrate. Il faudrait que les hommes politiques sénégalais soient beaucoup plus démocrates. Quand on regarde les partis politiques, ils sont patrimoniaux, ils sont gérés par des chefs de parti inamovibles qui sont là depuis les indépendances jusqu'à présent, Abdoulaye Wade, Moustapha Niass, Ousmane Tamardien, c'est les mêmes figures qui sont là. Ousmane Sonko, justement, est une nouvelle jeunesse, il est venu dans l'ordre de nos politiques, il a un mouvement, son parti n'est pas encore très structuré. Peut-être qu'avec lui, on va assister à ce qu'on appelle une alternance générationnelle. Mais pour autant, au Sénégal aussi, on a plus de clients politiques que de militants politiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de ressources financières, il vous est difficile de vous imposer, même si les jeunes de Sonko ont montré à la Obama qu'ils ont pu cotiser quelque part pour aider le leader à s'en sortir, même si aussi, il ne faut pas oublier, Ousmane Sonko a pu avoir des financements venus de l'extérieur, oui, de la diaspora sénégalaise qui a cotisé pour l'aider aujourd'hui à se mettre à ce niveau, parce que là-bas, ceux qui sont là-bas sont en contact d'une vraie démocratie contre les enjeux, contrairement à une population au Sénégal qui a pratiquement 85% de nos. Tout ça, c'est des gros dépendements pour une démocratie.
Mmh. Et Seizina Abagué, très très rapidement, qu'attendent les Sénégalais de leur futur président?
Je pense que le président Macky Sall, son second mandat, il est attendu de lui, parce que déjà on a assisté à certains projets qui ont une envergure assez énorme pour un pays comme le Sénégal, comme les terres, il y a le nouveau aéroport, il y a aussi des projets de développement comme la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui a une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour financer les femmes et les jeunes, et après en un an ils ont financé plus de 181 000 projets. Je pense que c'est sur ce genre de projet-là qui est attendu le président. Dans des projets qui ont un impact sur la société, sur la vie des Sénégalais, parce qu'il a mis en place des infrastructures. C'est bien de mettre en place des infrastructures, mais maintenant, durant son second mandat, il doit essayer.
Merci, Seizina. Je vais être obligée de vous couper parce que c'est l'heure de la pause. Merci Alassane Samba Diop. Merci Seizina Abagué. Washington Forum revient tout de suite. Gros plan sur les élections au Nigeria dans cette seconde partie d'émission. La commission électorale a annoncé la victoire du président sortant Muhammadu Buhari avec 56% des suffrages contre 41% pour son rival Atiku Abubakar. Pour analyser ces résultats, nous retrouvons à Abuja Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria, et Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique. Gilbert, quelle est l'ambiance dans les rues d'Abuja suite à l'annonce de ces résultats?
Dans les rues d'Abuja, c'est le calme. Le Nigeria en général, c'est le calme depuis l'annonce de la victoire du président sortant Muhammadu Buhari. Ce qu'il faut noter est que l'annonce de sa victoire a été reçue dans une indifférence totale auprès des populations. Les populations, on n'a pas vu l'ambiance, on n'a pas vu cette joie chez les populations jusqu'aujourd'hui. Les gens ne veulent même pas parler du sujet. Et, par contre, il y a la calmie, le pays est calme et depuis l'annonce de sa victoire, il n'y a pas eu de violence sur tout le territoire national. C'est ce qui est jusqu'ici l'avantage, il y a le calme dans le pays.
Idriss Fall Mouamadou Bouhari réélu avec 56% des suffrages. Donc, ce chiffre vous surprend-il?
Moi, personnellement, je dirais oui. Parce que M. Bouhari, lorsqu'il a été élu en 2015, il avait promis de lutter contre la corruption. Il avait promis d'en finir définitivement avec Boko Haram. Et je pense que 4 ans après, je ne vois pas. Et en plus, c'est durant sa magistrature que l'économie du Nigeria, à la défaveur de la baisse des prix du pétrole, est entrée en récession. Donc moi, j'ai été un peu surpris parce que tout le monde s'attendait à un résultat très serré avec son ancien vice-président Atiku Abubakar, ce qui n'a pas été le cas. Donc Atiku Abubakar lui-même, il rejette les résultats. Donc moi, personnellement, ça m'a un peu surpris.
Et vous, Gilbert Tamba, ce résultat vous surprend-il?
Au Nigeria, c'est la grande surprise parce que d'abord, vous savez, on a eu 73 candidats en lice pour la présidence. Ensuite, le report de ces élections et aussi les problèmes de sécurité, comme vient de le dire Idriss Fall. Ensuite, les Nigérians se sont massivement déplacés pour aller voter, mais pas tout le monde, beaucoup de personnes n'ont pas pu voter. Et donc les Nigérians sont vraiment surpris d'apprendre que le président Muhammadu Buhari a été élu à ces scores.
Alors, je vous propose un commentaire Facebook, hein, Bakary Sanou, qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les résultats des élections au Nigeria ne sont pas crédibles, car plusieurs incidents se sont produits, tels que le report du scrutin et des affrontements qui ont fait plusieurs morts. Idriss Fall, quand
Mais je crois que le taux de participation est très révélateur. Je pense qu'il est autour de l'ordre de 35%, c'est l'un des plus bas. Mais il ne faut pas oublier que ces élections ont été reportées à la toute dernière minute, alors que les gens avaient déjà fait le déplacement à l'intérieur des États de l'intérieur, dans leur région, pour pouvoir voter. Et une fois que tu arrives, tu te réveilles, on te dit que les élections sont reportées et il faut retourner si tu travailles à Abuja et tu ne peux pas revenir. Ce qui fait que ça, je pense que ça a été un facteur qui a joué sur ce vote-là. Le deuxième problème, en fait, c'est, vous savez que quand même M. Bouhari a fait changer le président, a suspendu du moins le président de la Cour suprême et a nommé quelqu'un d'autre, Cunningham, qu'on accuse d'avoir des fonds en devises étrangères, alors que si recours était déposé, il aurait peut-être son dernier mot. Donc il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. C'est-à-dire que quelqu'un est réélu au premier tour alors que tout ce qu'il avait promis n'a pas été complètement réalisé. Et je comprends que maintenant qu'il n'y a pas eu des scènes de liesse, de folie populaire pour l'accompagner. Je ne sais pas si ça a eu lieu à Kaduna ou ailleurs là, dans ces États du Nord. Mais pour le moment, je pense que Gilbert disait que c'est très très calme. Les Nigérians ont continué leur vie dans l'indifférence totale, quoi. Donc,
Alors, ces élections ont été émaillées de heurts qui ont fait des dizaines de morts. Gilbert Tamba, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres violences?
Oui, c'est d'ailleurs jusqu'ici l'inquiétude au Nigeria, hein, parce que le 9 mars prochain, nous avons des élections des gouverneurs et des assemblées étatiques et on craint vraiment des violences dans les États, surtout dans le fief du principal parti d'opposition, le PDP, qui est même monté aujourd'hui au créneau pour dénoncer le montage qu'est en train de faire le parti au pouvoir pour empêcher les élections dans les États qui sont considérés des fiefs du parti d'opposition, le PDP. Donc, effectivement, on craint jusqu'ici des violences pour les prochaines élections qui auront lieu le 9 mars, l'élection des gouverneurs.
Alors, les missions américaines ont exprimé leurs préoccupations face au discours de haine prononcé par certains partis politiques. Qu'en est-il exactement, Gilbert?
Il s'agit effectivement des déclarations entre les deux principaux partis, c'est-à-dire le PDP et l'APC au pouvoir. Vous savez, la sortie du président Muhammadu Buhari a inquiété beaucoup de Nigérians qui ont considéré que ces déclarations n'étaient pas dans l'intérêt du pays. En tant que chef d'État, il ne devait pas menacer les populations et demander aux forces de sécurité d'aller contre les populations. Et puis, sans pitié, donc, ces déclarations ont été condamnées ici. Et cela a beaucoup affecté la population qui a beaucoup été même empêchés le jour du scrutin de sortir, ayant peur d'attaques suite à ces déclarations. Et on a vécu effectivement des scènes de violence à Lagos et dans le sud du pays.
Le taux de participation a été faible, vous l'avez dit, hein, 35%. Pourquoi, d'après vous?
Mais je pense que le report y est pour beaucoup. Le report y est vraiment pour beaucoup. Et je ne connais pas exactement quels sont les taux pour des régions Igbo, donc de Biafra, où ces jeunes indépendantistes avaient lancé un appel à ne pas voter et jusqu'à la dernière seconde on dit aussi qu'il faut aller voter, que les problèmes sont réglés, mais je ne le crois pas. Dans le sud pétrolier où tu as toutes ces gammes de mouvements qui revendiquent une répartition équitable des richesses aussi, l'insécurité était là-bas et qu'on a entendu dans la dernière semaine un mouvement, ces rebelles-là, parler, se prononcer dans les élections. C'est-à-dire que, et sans parler de la zone du nord-est où Boko Haram n'est pas complètement éliminé, combien de gens qui sont déplacés autour du bassin du lac Tchad n'ont pas pu voter. Donc, je crois que tout cela explique le report, les crises qu'il y a dans la région du Biafra et dans le sud, plus la crise sécuritaire dans le nord-est, en fait, on contribue à ce que le taux de participation n'a pas été très, très élevé.
Gilbert Tamba, quels vont être les enjeux pour ce prochain mandat? Gilbert, est-ce que vous nous entendez? Idriss, je vous laisse la parole. Quels sont les enjeux?
Non, je pense d'abord que ce sont les élections là qui vont avoir lieu dans 10 jours, là, le 9 mars, les élections de gouverneur. Et ça, je pense, sera un enjeu important. C'était des élections générales. On n'a même pas donné le résultat des élections législatives où je ne sais pas si le parti de Buhari va conserver sa majorité, d'autant que l'ancien président de l'Assemblée et du Sénat. Donc il y a eu beaucoup de cafouillages qui ont fait que c'est réconcilier la classe politique au Nigeria. Ça, il faudra le faire. C'est régler la question de Boko Haram, ça ne se fera pas en un jour. Régler la question des indépendantistes du Biafra, ça ne se fera pas en un jour. Et je ne parle même pas de tous ces rebelles qui sont dans le delta du Niger et qui revendiquent une répartition équitable de la manne pétrolière. Donc tout ça réuni, le Nigeria, c'est le plus grand pays d'Afrique par la population. C'est une grande économie. Bon, le Naira, qui est la monnaie locale aussi, a d'énormes difficultés. Et un Nigérian, la majorité vivent avec moins de 2 dollars par jour. Pour le pays qui produit le plus de pétrole du continent. Gilbert est à Abuja, mais si vous allez à Lagos, les coupures de courant, c'est devenu presque quotidien. Les gens, ils obtiennent le courant avec des groupes électrogènes pour les plus nantis. Les fonctionnaires, ils sont très mal payés et que même ils ont voulu aller en grève. L'État avait promis d'augmenter le SMIC et que les gouverneurs des États ont dit qu'eux, ils ne pourront pas pour les employés. Donc, il y a énormément de travail à faire au Nigeria.
Et c'est peut-être ce qui explique le taux de participation faible, une lassitude?
Non, pas lassitude. Je pense que j'avais déjà expliqué que le report à la dernière minute, le Nigeria, c'est un grand pays. Et 36 États, si vous travaillez à Abuja, vous êtes obligé de prendre le train pour aller dans l'État du Nord et que ça a beaucoup joué, quoi.
Bon, ce seront les mots de la fin. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cette discussion. Merci à ceux qui nous ont suivis, à l'équipe qui a travaillé dessus. Au revoir.
La santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer.
VOA Afrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie.
Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être.
Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts.
Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de la Voix de l'Amérique.